¿Qué es que tú racontas?
Había una vez una historia.
Hey, what you say?
Sos que penaf tu prala. Yek paramish.
Hey, qu'est-ce que tu racontes, toi?
Qu'est-ce que tu racontes? Une émission sur l'oralité, les contes, les légendes et aussi des interviews, des questionnements, des reportages. Qu'est-ce que tu racontes?
Votre émission de contes.
Tous les mercredis à 15h.
Qu'est-ce que tu racontes?
Bonjour. Bonjour Célie, qui est aujourd'hui aux manettes.
Bonjour Armelle.
Ça fait plaisir de se voir, de se retrouver.
De se retrouver, ouais, ça fait du bien.
Alors, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui, solo encore? Pépo est toujours en repos. Bon, il avait envie de venir aujourd'hui, mais bon, il sera là la semaine prochaine, c'est promis. Alors, pour le faire sans musique, j'ai choisi un conte de Henri Gougaud, tiré du livre « L'arbre d'amour et de sagesse ». C'est une vieille version de 1997, un vieux livre de ma collection. Après, ils ont été réécrits, remaniés. Mais c'est un style un peu suranné, un style que j'aime bien. C'est un conte chinois, sur l'aile d'un papillon. Millions de vivants, millions de soleils sur le vaste océan, reflets de l'astre unique. À l'ombre du vieux saule, au bord de l'étang, Chang lève son pinceau en poil de lièvre et contemple le bref poème qu'il vient de calligraphier sur une pierre plate, après de longues méditations. Millions de vivants, millions de soleils sur le vaste océan, reflets de l'astre unique. Un oiseau effleure l'eau dormante et va se perdre dans le ciel limpide. Cheng, les yeux mi-clos, se laisse aller à la rêverie. Un rayon de lumière danse sur son crâne rasé. Un papillon se pose dans le pli de sa robe. Il ouvre un œil, observe les ailes multicolores déployées devant lui. Parmi les nervures fragiles, il découvre les chemins des villes, des forêts, des paysans à leurs charrues, des barques sur la mer, des palais impériaux. Bientôt, ces images s'ordonnent, semblables à celles que forment parfois les nuées. Un visage humain apparaît, un visage d'homme, mort, et pourtant illuminé de malice innocente. Alors Cheng sourit et murmure « Enfin, enfin là-haut, vieux camarade, nous voilà réconciliés. » Cet homme, celui qu'il nomme là-haut, dont la figure est inscrite sur l'aile du papillon, fut autrefois un paysan que la misère persécuta au point de le rendre fou. S'éveillant, un matin apparemment semblable à tous les matins de sa vie, il appela ses domestiques d'une voix sonore. Or, de sa triste existence, nul ne l'avait jamais servi, ni homme, ni femme, ni chien. Son fils, contemplant son visage empreint d'une majesté dérisoire, comprit que là-haut n'était pas sorti du rêve qui venait de visiter son sommeil. Il le secoua sans tendresse, mais ne parvint pas à le faire entrer dans le monde solide, dans le monde réel. Le pauvre homme, dans un coin de sa masure, frottait son corps de parfums imaginaires. Puis, une invisible servante l'enveloppait dans d'impalpables serviettes chaudes. Après quoi, il sortit au soleil, s'assit à l'ombre du tilleul sur la place du village et convoqua le peuple. Les villageois accoururent et s'amusèrent de lui. Lui, là-haut, écoutait les colibés et les insultes d'un air compassé, d'un seigneur accablé de flatteries. Puis, caressant son ventre creux, et leur donna qu'il lui soit servi son ordinaire festin matinal. On lui jeta alors des touffes d'herbe et des épluchures. Là-haut les dégusta sans la moindre répugnance et se lécha les doigts en demandant que l'on complimente de sa part les cuisiniers. Les gens, bientôt lassés de le railler, s'accoutumèrent à sa folie. Ainsi là-haut s'installa dans une opulence fictive et, une année entière, vécut déraisonnable mais heureux. C'est alors que Chang, fatigué de la ville et de ses fastes, décida d'aller vivre quelques semaines méditatives dans le village de celui qu'on appelait désormais le Simple. Chang était en ce temps-là le plus fameux médecin de l'Empire. Dès qu'il vit là-haut, errant joyeusement dans les labyrinthes de sa citadelle intérieure, il fut pris d'un violent désir d'exercer sur lui son art. Pas par générosité, ni par le goût des honneurs. Seule lui venait une intime et dévorante ambition, vaincre le dragon de la démence. Ainsi, avec sa forte conviction, il pénétra dans l'esprit de Lao le Simple et lui livra bataille 7 jours durant. Au matin du 8e jour, l'idiot s'est réveillé lucide. Dépouillé de sa bienheureuse folie, il palpait son corps efflanqué, il frottait ses yeux et s'est mis à pleurer sur sa misère retrouvée. Il demanda quel péché il avait commis pour être ainsi revenu en enfer, après un an de paradis. Et Chang lui répondit « Mon ami, ton désespoir me réjouit, car il est le signe de ta guérison. Mon œuvre est accomplie. Permets donc que je me retire. » Là-haut, le retint par la manche de sa robe et lui dit « Homme cynique, regarde mes haillons crasseux, regarde mon corps délabré, mes côtes saillantes, ma face creuse. Comment oses-tu prétendre que tu m'as rendu la santé ?»« Il est vrai, lui répondit Chang, que tu es fort maigre et mal vêtu. Je te conseille donc de t'habiller de laine et de manger raisonnablement 2 fois par jour. » Si tu n'as pas d'argent pour payer ces élémentaires remèdes, je ne peux rien pour toi. Je soigne le corps des hommes, point les tares sociales. Adieu. » Et Chang s'en alla, content de lui. Et Lao, demeuré seul, est désespéré, si fort qu'il s'est pendu au fait de sa hutte. Et le lendemain, le fils de Lao a porté plainte devant le juge du district. Le docteur Chang, selon le jeune homme en deuil, avait imprudemment empoisonné l'âme de son père et il s'en était allé sans se soucier des dégâts qu'il avait provoqués. Les villageois, interrogés, abondèrent dans ce sens. Chang avait brisé la sérénité du Simple. Chang devait être puni. Le juge convoqua l'intraitable docteur, qui plaida sa cause avec simplicité. « Mon art guérit les fous. Il est donc bienfaisant. Je n'ai fait que rendre à Lao son esprit perdu, car son bonheur était illusoire. » Et le juge lui a dit « Mais tous les bonheurs ne sont-ils pas illusoire. Et toi-même, Chang, qui a précipité dans les ténèbres ce mort, ce paysan misérable, pour l'orgueilleux plaisir de les dépouiller d'une illusion, mais toi, n'es-tu pas fou ?» Chang n'a pas répondu. Et le juge a continué, et il a dit sa sentence. « Homme savant, mais peu sage, tu vivras désormais solitaire. Et pour ne pas être tenté de te perdre dans ta propre folie, tu briseras tes miroirs. Nous souhaitons que là-haut le simple un jour te pardonne. Va, et que ta présence ne souille plus notre regard. » Aujourd'hui, 20 ans sont passés. Chang n'est plus assez déraisonnable pour compter les jours, car les mêmes reviennent sans cesse sous les oripeaux différents selon les saisons et le caprice des nuées. Chang est sorti de sa gangue d'orgueil. Il sait maintenant que tout est illusion. Il laisse errer son regard sur son poème. Millions de vivants, millions de soleils sur le vaste océan, reflet de l'astre unique. Il prend la pierre plate sur laquelle sont inscrits ces mots et il la jette à l'eau. Le miroir de l'étang se brise, dans lequel il s'est un instant contemplé. Le papillon s'envole et l'homme sage s'endort à l'ombre du saule que berce le vent. Merci d'être là, merci d'écouter. Toujours tiré de l'arbre d'amour et de sagesse, ce conte ô combien connu mais toujours aussi beau, le maître du jardin. Il était une fois un roi. Dans son jardin de fleurs et d'arbres rares poussait un rosier chétif et pourtant précieux entre tous. Le nom de ce rosier était Anahan Khan. Jamais de mémoire de roi il n'avait pu fleurir. Mais s'il était choyé plus que tout au monde, c'est qu'on espérait une rose de lui, unique dont parlaient les vieux livres. Il était dit que sur le rosier d'Anahakan, un jour viendra la rose généreuse, celle qui donnera au maître du jardin l'éternelle jeunesse. Et tous les matins, le roi venait se courber dévotement devant lui. Il chaussait ses lorgnons, examinait ses branches, cherchait un espoir de bourgeon parmi ses feuilles. Ne trouvait rien, se redressait, la mine terrible. Il prenait au col son jardinier et lui disait « Mais sais-tu ce qui t'attend, mauvais bougre? Si ce rosier s'obstine à demeurer stérile, c'est la prison, l'oubliette profonde. » Et c'est ainsi que le roi, tous les printemps, changeait de jardinier. On menait au cachot celui qui n'avait pu faire fleurir la rose. Un autre venait, qui ne savait pas mieux faire. Et il finissait sa vie comme ce malheureux confrère, entre les quatre murs du cachot. 12 printemps, 12 jardiniers. Le 13e était un fier jeune homme, il s'appelait Sam. Elle dit au roi, « Seigneur, je veux tenter ma chance. » Et le roi lui a dit, « Ceux qui t'ont précédé étaient de grands et grands experts, des savants d'âge mûr. Ils ont tous échoué, et toi, Blanc-Bec, tu oses ?» Et le jeune Sam lui dit, « Je sens que quelque chose en moi me fera réussir. » « Mais qu'est-ce que c'est, jeune fou ?»« La peur, Seigneur, la peur de mourir en prison. » Et Sam, par les allées du jardin magnifique, s'enfuit à son rosier et lui parla longtemps à voix basse. Il bêcha tout autour de son maigre pied. La rosée, il est demeuré près de lui jour et nuit à le garder du vent, à caresser ses feuilles. Il enfouit ses racines dans du terreau moelleux. Aux premières gelées, il est habillé de paille. Et s'est mis à l'aimer. Sous la neige, il restait comme au chevet d'un enfant à chanter des berceuses. Et le printemps est arrivé. Et Sam ne quittait le rosier pas des yeux, droit, frêle. Il guettait les moindres pousses, il priait et respirait pour lui. dans le jardin de fleurs. Partout s'épanouissait, tout autour, mais Sam ne voyait rien. Il ne regardait que la branche sans rose. Au premier jour de mai, comme l'aube naissait, Rosier, mon fils, où as-tu mal ? À peine avait-il prononcé ces mots qu'il vit sortir de ses racines un long ver noir. Sam a voulu s'en saisir. Un oiseau s'est posé sur sa main, les ailes battantes, hop ! Il a volé la capture. À l'instant, un serpent a surgi d'un buisson proche. Le serpent avale le ver qui avale l'oiseau, et alors un aigle est descendu haut du ciel. Il a tué le serpent, il l'a pris dans ses serres, il s'est envolé. Comme il s'éloignait vers l'horizon, le jour s'est levé tout à fait. Et à ce moment précis, un bourgeon est apparu sur le rosier. Sam l'a contemplé. Il s'est penché sur lui, l'a effleuré d'un souffle, et lentement, lentement, la rose généreuse s'est ouverte au soleil du matin. « Merci, merci » a murmuré Sam. Il en est allé au palais en criant la nouvelle. Le roi était encore au lit, il a bâillé, il a grogné, mais moi qui dormais si bien, qui ose me réveiller. Et Sam lui a dit « Seigneur, Seigneur, la rose Anahakan s'est ouverte. Vous voilà immortel, ô maître du jardin. » Le roi a bondi hors de ses couvertures. Il a ouvert les bras, il a crié « Merveille !» et pieds nus en chemise, il est sorti dans le jardin. Composte sans garde, armé de pieds en calpe autour de ce rosier. Il a gesticulé « Je ne veux voir personne, dis lieu à la ronde. Sam, jusqu'à ta mort, tu veilleras sur ce rosier. » Et le jeune jardinier a dit « Jusqu'à ma mort, Seigneur. » Le roi, dans son palais, a régné encore 10 ans. Puis un soir, il a quitté ce monde en disant ces paroles. Le maître du jardin meurt comme tout le monde. Alors tout n'était que mensonge, cette rose n'apporte pas l'immortalité. Le jardinier était à côté de lui et lui a dit, « Maître, non, il ne faut pas penser ainsi. Le maître du jardin, ça n'a jamais été vous. La jeunesse éternelle est à celui qui veille. Et j'ai veillé, Seigneur. Et je veille toujours, de l'aube au crépuscule, et du crépuscule au jour. » Il a fermé les yeux de son vieux maître. Il a embrassé son front pâle. Puis il est sorti sous les étoiles. Il a salué chacune, et il a dit « Bonsoir, bonsoir, bonsoir. » Sam, désormais, avait le temps. Tout le temps. Rester calé dans son coussin, fermer les yeux, regarder les étoiles, prendre le temps. Vous avez tout le temps. Merci. À bientôt.
Vous venez d'écouter
Qu'est-ce que tu racontes ?
À la semaine prochaine.